Le National. Bonjour mes amis, ici Clotilde Sey qui s'est demandé une nouvelle fois ce qui se disait, ce qui s'écrivait dans les journaux francophones partout au pays, d'est en ouest. Alors, à cette émission Le National aujourd'hui, vous entendrez parler de croissants français, vous entendrez parler du Niagara qui se cherche une fête francophone annuelle, du passage remarqué pour le chanteur Christophe Maé à Toronto. On parlera de galeries francophones, de garderies pardon, francophones à Calgary et dans les régions. De briser l'isolement aussi des aînés francophones, toujours dans la région de Calgary. Et on parlera d'une première baleine noire qui a été aperçue en eau canadienne, entre autres. Et on commence tout de suite en parlant, tiens, du royaume du croissant français. Nous sommes dans l'express.ca, un journal qui vient de Toronto, et c'est Camille Simonet qui nous parle de ces faiseurs de croissants français. Et c'est écrit comme suit: à tous les expatriés français et les francophiles dégoûtés des croissants au fromage à la crème ou fabriqués avec de la margarine, poussez la porte de Bonjour Brioche. Ici, on fait la guerre à l'industriel en concoctant amoureusement de vrais croissants au beurre, garantie pure, tradition française, et ce depuis bientôt 21 ans. C'est une belle histoire qui a démarré fort et ce dès les premiers pains au chocolat. On a ouvert la porte et ça a directement marché. À peine 3 semaines après, il a fallu qu'on appelle de l'aide et maintenant on a une quinzaine d'employés, raconte Henri Fiessen, le propriétaire de la boulangerie-restaurant. L'histoire commence à Lyon et se poursuit ensuite à Montréal et à Toronto. À 20 ans, ce Lyonnais, Henri Fiessen, vient de finir l'armée. Il a alors l'opportunité de partir à Montréal où il reste à peine 2 ans et il reçoit ensuite une offre intéressante pour partir travailler dans les grands hôtels torontois. Quand on lui demande s'il aurait pu retourner en France à l'époque, Henri ne s'y montre pas très favorable. « En France, t'as pas de boulot, t'as rien. Je me suis dit que j'allais rester ici et apprendre l'anglais. » Et c'est sa femme, Laurie, qu'il rencontre à Toronto, qui trouve l'emplacement de Bonjour Brioche, pas très loin de chez eux et surtout éloigné du grabuge urbain rue Queen, à l'est de la rivière Don. En ce temps-là, cette partie de la ville n'était pas vraiment le bon coin. J'étais pas tranquille quand je venais travailler la nuit. Celui qui nous a construit l'endroit nous a donné 6 mois. Depuis, il a fait faillite. Et nous, on est toujours là, témoigne le boulanger en chef. Bonjour Brioche est constamment rempli. L'endroit, à la frontière de Riverside et de Leslieville, a évolué et s'est entouré de cafés et de petits restaurants. Bonjour Brioche, lui, est resté un point d'ancrage, un repère pour les amateurs de bonne viennoiserie française. Si, au début, Henri Fiessen suivait les horaires français et ouvrait de 7h du matin à 7h du soir, il a très vite compris que ça n'allait pas avec le rythme de ses clients canadiens. Alors désormais, il est possible d'aller chercher sa baguette de 8h à 16h tous les jours, à l'exception du dimanche. L'option brunch s'est également rajoutée et elle est l'une des raisons pour lesquelles Bonjour Brioche ne semble pas vouloir désemplir. Le croissant est la star incontestée de l'établissement. L'établissement a tout de même vécu quelques changements ces derniers mois, avec notamment l'arrivée d'un nouveau chef pâtissier qui s'appelle Antonin Laplot. Le jeune chef français qui était responsable de la production de macarons et de la boulangerie chez Nadège a tout simplement poussé la porte de Bonjour Brioche en quête d'un poste. Et tout s'est fait assez naturellement. C'est ça le Canada. Tout est très fluide et se fait rapidement et facilement, contrairement à la France. J'avais l'impression d'avoir fait le tour chez Nadège et je voulais travailler dans une entreprise anglophone et découvrir autre chose pour ne pas tomber dans la routine, narre Antonin. Un nouveau défi d'adaptation qu'il a relevé avec brio et qui lui a permis de se perfectionner dans ce qu'il savait déjà faire. Aujourd'hui, Antonin propose des nouveautés à la carte assez régulièrement. Ce mois-ci, c'est le pavlova qui est à l'honneur. Au sein de cette nouvelle entreprise, Antonin Laplot se sent Comme une baguette dans le four. On mange très bien ici. Les croissants sont reconnus et les gens les adorent. Tout est simplement vachement bon et il n'y a pas de secret. Rien n'est fait industriellement et tout est fait à la française, assure-t-il. En parallèle de son quotidien de chez Bonjour Brioche, Antonin Laplot donne aussi des ateliers de pâtisserie avec Just Be Cooking, dont les fameux choux à la crème. Je suis très content parce que j'ai eu des très bons retours pour l'instant. Alors Bonjour Brioche a toujours eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, ça commence à faire beaucoup pour Henri Fisson, qui ne se projette pas pour les 10 prochaines années. Il dit que c'est de plus en plus compliqué pour lui, qu'il devient vieux et qu'il manque de place ici. Tout devient aussi de plus en plus cher avec toutes les taxes de la ville. Alors, j'attends que quelqu'un vienne avec une valise et je lui donne les clés. Idéalement, le propriétaire préférerait transmettre son bébé à quelqu'un de dedans ou à un jeune dynamique et qui pourrait racheter le nom et perpétuer la tradition comme Antonin qui en veut et qui s'accroche. Alors, chanceux que vous êtes à Toronto de pouvoir aller vous acheter des croissants et autres viennoiseries, tiens, comme les petits pains au chocolat, pourquoi pas, à Bonjour Brioche.
Matin, il achetait son petit pain au chocolat.
Aïe, 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 aïe.
La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas.
Aïe, 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 aïe.
Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle est croustillante autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas.
Aïe, 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 aïe.
Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Un soir on est marié,
aïe, 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 aïe.
Tout en blanc, qu'elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de si peu. D'une simple paire de lunettes pour approcher deux êtres et pour qu'ils soient heureux.
Et ça prenait pas grand-chose hein, non plus pour faire une chanson et pour faire un tube, comme on disait à l'époque. Les petits pains au chocolat, bien sûr, vous avez reconnu Joe Dassin. Nous allons rester en Ontario, dans le régional.com. J'ai trouvé, sous la plume de Rudy Chaban, un papier sur le fait que le Niagara se cherche une fête francophone annuelle. Y a-t-il de la place dans le Niagara pour une fête populaire rassemblant tous les francophones? C'est la grande question à laquelle la communauté aimerait bien répondre. Depuis l'abandon de la Saint-Jean-Baptiste en 2015, faute de bénévoles et de participants, après une quarantaine d'années d'existence au sein de l'auberge Richelieu de Welland, le Niagara est orphelin d'un événement symbolique et identitaire dans lequel tout le monde se reconnaîtrait. Alors que certains aimeraient voir la traditionnelle fête des Canadiens français du 24 juin, renaître de ses cendres, d'autres souhaiteraient plutôt opter pour une manifestation englobant la francophonie dans toute sa diversité, évoquant la date du 25 septembre, le jour officiel des Franco-Ontariens, lors duquel on hisse le drapeau vert et blanc, n'est véritablement célébré que par les écoles dans la péninsule et pourrait donc s'enrichir d'une participation communautaire élargie. Une chose est sûre, tout le monde est d'accord pour relancer un événement festif faisant la démonstration de la fierté francophone à l'échelle régionale. Reste à réunir une solide équipe capable de dynamiser la communauté, de trouver un lieu et une date qui fassent consensus et les ressources nécessaires pour donner à une telle manifestation populaire l'ampleur régionale qu'elle mérite au-delà des frontières de Welland. Cela fait plus de 40 ans qu'on célèbre la Saint-Jean-Baptiste, lâche Pierre Girouard, un des tenants du projet. On ne va pas tout laisser tomber comme ça, ce n'est pas possible. Selon cet enseignant et membre du club Richelieu, que la communauté connaît notamment pour son implication dans le carnaval d'hiver de Welland, il n'est pas question de rester les bras croisés. À moins de 2 mois du 24 juin, organiser un tel événement semble difficile. Il suggère donc une année de transition qui consisterait à être présent lors du Welland Rose Festival, qui célèbre chaque année en juin l'histoire, le patrimoine et les communautés de la ville depuis 1961, au sein d'un kiosque lors des Days in the Park et sur un char francophone inclus dans la grande parade. Ce serait un message fort qu'on adresserait à tous les francophones qui assistent au défilé annuel de la ville. La francophonie est toujours là. Rejoignez-nous pour préparer une grande fête l'année prochaine. Monsieur Girouard convient toutefois que la fête des Canadiens français n'englobe pas l'ensemble de la francophonie du Niagara, qui s'est largement enrichie d'une immigration diversifiée, qu'elle soit africaine ou européenne, et non plus seulement québécoise comme par le passé. Peut-être que le 25 septembre serait plus inclusif, songe-t-il. Il faut en discuter et s'entendre sur une date fédératrice. Et puis, nous sommes toujours en Ontario, mais dans le métropolitain.com cette fois-ci, alors que le chanteur Christophe Maé a profité de son triomphe au Québec, eh bien, pour se balader un peu plus loin dans la francophonie. Il est notamment passé à Toronto. C'était la première tournée nord-américaine pour Christophe Maé, le chanteur français qui est passé entre autres par New York, Los Angeles, San Francisco, la Nouvelle-Orléans, le Québec et enfin Toronto, dernière date de la tournée. À 16 ans, Christophe Maé passe le diplôme de pâtissier pour faire plaisir à ses parents qui possédaient une pâtisserie dans le sud de la France. « C'est un métier magnifique, mais si tu n'es pas passionné, ça devient compliqué », confie le chanteur. À 18 ans, il claque la porte du domicile familial, s'ensuit quelques années de galère, puis il chante pendant une dizaine d'années dans les piano-bars des stations balnéaires et de sports d'hiver. « J'ai vite très pris conscience qu'il fallait que je compose des chansons, que j'écrive des textes », ajoute-t-il. En 2005, il est engagé dans la comédie musicale « Le Roi Soleil » où il joue « Monsieur ». Le frère de Louis XIV, le succès arrive enfin, mais ce que veut Christophe Maé, c'est réaliser ses projets personnels. 3 ans plus tard, il sort son premier album intitulé « Mon paradis ». L'auteur-compositeur-interprète connaît alors une carrière fulgurante. En 2017, il aura fait plus de 150 concerts devant environ 500 000 personnes. Cette tournée nord-américaine dans des petites salles devant un public qui le connaît moins, c'est donc un retour à l'essentiel pour l'artiste qui dit « C'était magnifique, j'avais besoin de faire ça, de revenir à la source, dans des clubs de 300 personnes, sans artifice, sans décor, juste avec ma famille musicale, avec 4 personnes qui m'accompagnent depuis une vingtaine d'années », ajoute-t-il. C'est une tournée qui lui a aussi permis de se retrouver, de recharger ses batteries et de se rapprocher de son public. Si je fais de la musique avant tout, c'est pour rencontrer les gens et pour me payer ma liberté, poursuit-il. Depuis 10 ans, c'est magnifique ce que je vis en France, mais il y a quelque chose qui est très intense. J'ai la chance de pouvoir remplir des salles de 5 000, 8 000 personnes. Réussir une carrière dans ce milieu est une chance, et Christophe Maé le sait, mais ça peut créer une certaine solitude, dit-il. Quand le rideau se ferme à la fin du concert, je suis dans ma loge un peu solo, confie l'artiste. La fin de la tournée s'achève, je suis à la maison et je me retrouve avec mon stylo, et il faut que j'écrive la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire s'écrit aujourd'hui en Amérique du Nord avec un succès inattendu au Québec. Après son passage remarqué à une émission québécoise, il y a un mois environ, le chanteur est devenu numéro 1 des ventes. Il n'oublie pas les autres villes canadiennes, et donc c'est la raison pour laquelle il a aussi fait un passage remarqué dans le Toronto francophone.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants. Et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, il est là, et il est là, ouais. le bonheur, il est là, il est là.
Oui, Christophe Maé, je ne sais pas s'il est là, le bonheur, dans les garderies francophones de la région de Calgary, mais apparemment, voilà une nouvelle qui va faire bien des heureux, écrit Luca Pillery dans le Franco de Calgary. Alors, bonne nouvelle pour quelques centaines de parents francophones, ils ne paieront plus que 25$ la journée pour les services de garderie en petite enfance à compter du 1er juin. La mesure fait suite à l'annonce du 25 avril du ministère provincial des services à l'enfance d'étendre son programme de subvention à 100 établissements supplémentaires, dont 9 francophones. On nous propose ici un décryptage. Des places en garderie à 25$ la journée, tous les parents en rêvent. Pour Raja Ayouni, mère d'une petite fille de 9 mois, ce serait un gros soulagement. « Je suis dans la phase de recherche d'une garderie à Edmonton », explique-t-elle. « Je considère celle de la cité francophone, les petits rayons de soleil, mais elle ne fait pas partie du programme et les prix vont passer de 1065 à 1150$ en septembre. » J'imagine que ça, c'est pour l'année. 9 centres d'apprentissage et de garde de jeunes enfants ou Early Learning and Child Care Centers, le LCC en anglais, la dénomination officielle du gouvernement, pourront bénéficier de la subvention. Parmi eux, le Centre d'expérience préscolaire et parascolaire, le CEP, qui comprend la garderie de l'école Gabriel-Roy à Edmonton et la garderie de l'école La Mission à Saint-Albert, les 3 établissements de la société Pomme de Rainette Daycare à Calgary, les Petits Oursons à Saint-Paul et les 3 nouvelles garderies des Petits Explorateurs, à Lloydminster, des Petits Bouques à Grande Prairie et de Red Deer. Pour Mireille Péloquin, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l'Alberta, pour l'acronyme c'est FPFA, la nouvelle marque une intention louable du gouvernement de soutenir la minorité francophone. Nous avons rencontré le ministère des services à l'enfance à plusieurs reprises. On les a sensibilisés, on a mis dans leurs mains l'étude du commissariat aux langues officielles sur l'impact des services de la petite enfance sur la vitalité des communautés francophones. On leur a expliqué que la petite enfance était un moment important dans la vie d'un individu pour transmettre la langue et la culture, détaille-t-elle. Et le gouvernement a prêté une oreille attentive aux requêtes. En tout, 7200 places seront subventionnées à l'échelle de la province, dont 303 pour des établissements francophones, soit plus de 4% du total. Quand on pense qu'on est une population de 3 à 4% de francophones en Alberta, on a des raisons d'être content, fait remarquer Mireille Péloquin. Le gouvernement fédéral a de son côté investi 136 millions de dollars sur 3 ans dans ce projet. La ministre des Services à l'enfance, Danielle Larrivé, a choisi de répondre au problème de l'accessibilité économique ignoré pendant des décennies par les conservateurs. La responsable souligne le dynamisme de la communauté franco-albertaine et estime que l'annonce récente constitue un gros gain pour les familles francophones. La responsable reconnaît par ailleurs l'importance d'avoir accès à un tel service. La grande majorité des développements cérébraux survient avant la maternelle. Les parents francophones savent que ces premières années sont cruciales et façonneront les compétences linguistiques de leurs enfants pour le reste de leur vie. Elle assure enfin que le gouvernement continuera d'évaluer de nouvelles demandes de subventions dans les centres en français. Malgré tout, certains parents ne sont pas satisfaits. Raya Ayouni est déçue du manque de choix. Une seule école fait partie du programme subventionné à Edmonton et j'habite trop loin, regrette-t-elle. C'est bien beau de prôner le français. On me dit que je dois apprendre à ma fille à parler le français, mais les services ne suivent pas. On entend qu'il y a beaucoup de subventions, mais on n'en voit pas les répercussions. Mireille Péloquin comprend la déception. Il n'y a pas assez de garderies francophones, reconnaît-elle. Le besoin actuel est de 1200 places. On n'est même pas à la moitié. On est content de l'annonce, mais ses parents ont raison d'être déçus. Pour autant, la directrice de la FPFA reste optimiste. On espère qu'avec le nouveau plan d'action pour les langues officielles, on va avoir plus d'argent. Pour d'autres initiatives, on va continuer à travailler sur le dossier. Sur les 300 places subventionnées dans les garderies francophones de la province, la société Pomme de Rainette Daycare à Calgary tire son épingle du jeu avec près d'un tiers d'entre elles. On est très heureux, exprime Isabelle Leblond, la directrice générale. On est fiers d'être reconnus officiellement, comme centre d'apprentissage et de garde de jeunes enfants. Et nous sommes contents de pouvoir offrir ce service aux familles francophones de Calgary. Cette garderie Pomme de Reinette, voilà, qui obtient 20 nouvelles places à 25 $, qui s'ajoutent aux 110 déjà existantes. Alors, ceux qui veulent profiter de ces places à bas tarif devront s'armer de patience, car la liste d'attente ne va faire que s'allonger. Nous avons déjà une cinquantaine de personnes sur celle-ci, indique Isabelle Leblanc, et à voir la quantité de courriels et d'appels qui arrivent depuis l'annonce, leur nombre sera doublé, voire triplé, d'ici quelques semaines. Et du monde de la petite enfance, on passe à celui des aînés. Connect aînés, briser l'isolement des aînés francophones, écrit Luca Pilleri, toujours dans le Franco. Nous sommes en Alberta encore. La Fédération des aînés franco-albertains, la FAFA, est en plein développement d'un projet qui pourrait sortir les aînés de leur solitude. En partenariat avec l'organisme anglophone Seniors Center Without Walls, un service d'appel téléphonique en français permettrait d'organiser des discussions de groupe brisant ainsi l'isolement social. Le service téléphonique est très important pour Alizée Cook, directrice générale de la FAFA, qui constate que l'isolement social touche durement les aînés francophones. Beaucoup d'entre eux vivent en régions éloignées et l'exode rural n'arrange pas les choses. Ceux qui ont des maladies comme l'Alzheimer perdent leur seconde langue et ne parlent plus que français. D'autres se retrouvent seuls après la mort de leur conjoint. Un aîné peut se retrouver très vite isolé sans sa langue maternelle, dans sa langue maternelle, avertit la jeune responsable. D'ailleurs, un rapport publié en 2017 du Conseil national des aînés estime que 16% des aînés canadiens subissent un isolement social. Les plus exposés seraient ceux vivant en milieu rural, les aînés immigrants et les aînés de langue officielle minoritaire. Il faut casser le cercle vicieux, lance Alizée Cook. Un contact téléphonique, on pourrait penser que ce n'est pas grand-chose, mais c'est très important. Surtout lorsqu'on sait qu'il n'y a aucun centre communautaire pour les aînés francophones en Alberta. Si le projet en est encore au stade embryonnaire, la FAFA est déjà à la recherche de 2 bénévoles pour animer des sessions d'essai en français. Ça prend des gens qui ont des qualités très particulières d'écoute et d'empathie, qui ont de l'énergie et de la diplomatie, précise la responsable. On encourage plutôt des aînés à postuler qui comprennent bien les enjeux et la réalité des appelants. À raison de quelques heures par mois, ces bénévoles seront d'une grande aide. Travailler pour les aînés, c'est travailler pour soi. On sera tous des aînés un jour ou l'autre, rappelle Alizée Cook. La FAFA est aussi à la recherche de financement. À terme, l'idée est que nous servions seulement de rampe de lancement au service en français, indique Madame Cook. C'est naturellement que l'organisme s'est tourné vers le secrétariat francophone, le partenaire le plus logique. D'autres financements pourraient être envisagés, comme le programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés. Les sessions d'essai seront effectuées d'ici à la fin de l'automne et le programme pourrait voir le jour en 2019.
Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux nous trouverons la joie. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour, si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. N'oublie pas, si tu cherches à savoir quel chemin il faut suivre, si tu cherches à comprendre ce vers quoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive. Mais peut-être qu'à cent, nous trouverons la voie. Si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si l'on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à mille, nous saurons la trouver. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière.
Amène-toi chez nous, mais nouvelle version, hein. C'est un peu étonnante. Moi, j'aimais mieux quand ça balançait un petit peu plus. Mais bon, c'est une bonne chanson. Une bonne chanson restera toujours une bonne chanson. Elle était signée Jacques Michel. Alors, retour dans les journaux francophones du Canada, d'est en ouest. Cette fois-ci, on se dirige en Acadie avec l'acadienouvelle.com qui nous parle d'un nouveau service dédié aux arts et à la culture à Edmundston qui prend des mesures pour mieux permettre mettre en valeur l'implication de la municipalité dans le développement et le rayonnement des arts et de la culture. Le conseil municipal a scindé le service des loisirs et de la culture pour créer deux services distincts. Ainsi, le service des loisirs et de la culture sera remplacé par le service des loisirs et des sports et le nouveau service des arts et de la culture. Cette modification ne crée aucun nouvel emploi. Toutefois, un poste de coordination aux arts sera publié pour remplacer un départ à la retraite. Edmundston est reconnu depuis longtemps pour son appui aux arts et à la culture. Il était temps pour nous de donner une dimension additionnelle à cet appui en dédiant à ce secteur d'activité un service municipal qui lui est propre, soutient le maire Cyril Simard. Le nouveau service des arts et de la culture aura pour mandat de continuer à développer la fierté culturelle de la population, en favoriser l'expression, susciter la participation du milieu, ajouter un soutien technique aux organismes culturels et jouer un rôle de premier plan dans la diffusion de spectacles, entre autres au Centre des Arts, à la salle Léo Poulain et en plein air, à l'organisation de programmes saisonniers d'activités, d'ateliers artistiques et culturels et d'offrir un support auprès des artistes et des organismes à but non lucratif de caractère culturel reconnus par la ville. Toujours dans l'Acadie Nouvelle, une première baleine noire a été aperçue dans des eaux canadiennes. Les autorités fédérales des pêches ont aperçu pour la première fois cette année une baleine noire de l'Atlantique Nord dans les eaux canadiennes. Le spécimen de l'espèce menacée d'extinction a été vu par les membres d'une patrouille aérienne de pêche et océan canadien au large de la côte est de l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. La nouvelle a ensuite été transmise sur les réseaux sociaux. Habituellement, la plupart des baleines noires naviguent en été dans le golfe du Saint-Laurent au large de la côte nord du Nouveau-Brunswick. Le gouvernement du Canada a récemment adopté des mesures pour protéger ces baleines, notamment des normes plus sévères pour les câbles qui relient aux bouées, les casies à homards et à crabes. Avant le lancement de la saison, le ministère des Pêches et des Océans a avisé les pêcheurs de crabes du nord-est du Nouveau-Brunswick qu'ils pourraient devoir rester à quai si des baleines devaient être aperçues dans certaines zones de pêche. Il ne resterait plus que 450 baleines noires de l'Atlantique Nord. L'an dernier, 18 sont mortes, dont 12 dans les eaux canadiennes, essentiellement après avoir été heurtées par des navires ou s'être empêtrées dans de l'équipement de pêche. Et puis, dans l'Acadie Nouvelle, on trouve cette nouvelle, Beresford, qui fêtera l'Acadie durant 4 jours. Cette année, grâce à une programmation diversifiée, Beresford célébrera l'Acadie pendant 4 jours à la mi-août. Aurel Michaud, membre du comité de développement culturel de Beresford depuis sa création en 2013, en assure la présidence pour la 2e année. Il se dit très fier de contribuer à l'essor de la culture dans sa communauté et souhaite voir les gens de Beresford et de la région participer en grand nombre à la 4e année de Beresford Fête l'Acadie. Le comité organisateur qui a décidé notamment de clôturer les festivités avec un spectacle de Sandra Lecouteur le mercredi 15 août au Centre des Chevaliers de Colomb de Beresford. Le maire de Beresford, Jean-Guy Grand, se dit satisfait de la programmation dévoilée par le comité. On trouve des activités pour toute notre communauté. Le comité a fait un excellent travail pour permettre à nos concitoyens de vivre un excellent moment.
le portrait de mon père dans le salon, et posez-le avec maman, et accrochez-le, ça fait longtemps. Le portrait de mon père dans le salon. Il a travaillé toute sa vie pour nous bâtir une bonne maison. C'est pour ça que je peux pas l'oublier. J'ai accroché son portrait dans le salon. Le portrait de mon père dans le salon, et posez-le avec maman, et accrochez-le, ça fait longtemps. Le portrait de mon père dans le salon, et accrochez-le, ça fait longtemps. Le portrait de mon père dans le salon.
Caillou, ça c'est un vrai phénomène. Hein. En Acadie, là, tout le monde, il est vénéré. Mon ami Maurice me disait, Maurice Bolduc, qu'il avait déjà assisté à un show de Caillou et qu'il y avait des jeunes 15, 20, 25 ans et que tout le monde connaissait tous les textes des chansons de Caillou. Alors je suis contente qu'on l'ait choisi pour illustrer le précédent article qui se passait en Acadie. Alors maintenant, on s'en va tout de suite dans le Grand Nord canadien avec l'Aquilon, l'aquilon.ca, je voudrais vous lire un papier de Denis Laure qui fait référence à un comité sénatorial qui se penche sur le Nord en attendant la nomination des représentants septentrionaux. Ce que ça veut dire septentrional, c'est ce qui est le plus au Nord possible pour y vivre. Alors, à l'issue de la 10e réunion, le président du comité sénatorial spécial sur l'Arctique, Denis Patterson, a annoncé que celui-ci se rendrait dans l'Arctique de l'Ouest en septembre 2018 et possiblement dans l'Est en novembre, afin de rencontrer la population et de préparer ses recommandations au gouvernement fédéral pour le cadre stratégique pour l'Arctique 2030. Lors de sa réunion à Ottawa le 8 mai, le comité a examiné partiellement le projet de loi C-74 qui traite de manière générale du dernier budget et dont la section 9 aborde l'acquisition de biens ou d'immeubles par la station de recherche en extrême arctique et la gestion de la faune au Nunavut. Le comité a d'ailleurs rencontré, parmi différents experts, David G. Scott, le président-directeur général de Savoir Polaire Canada, qui dirige la station de recherche de Cambridge Bay. Il nous a expliqué comment la station de recherche est imputable aux résidents du Nord, explique Denis Patterson, et la collaboration avec la communauté de Cambridge Bay, qui est impliquée dans les opérations de la station. L'idée est de mélanger le savoir traditionnel des habitants de l'Arctique avec les connaissances scientifiques et de s'assurer qu'il y a un équilibre. Le comité a également abordé la question des espèces menacées, de dire la sénatrice du Québec, à Bedford, Rosa Galvez, de l'ours polaire et de son habitat, et de l'efficacité de la réglementation en place pour protéger les espèces. En écho à son collègue, Mme Galvez souligne la disparité entre les connaissances ancestrales et les données scientifiques sur la présence ou l'absence d'espèces dans certaines régions. Il faut harmoniser ça, postule cet ingénieur et scientifique, experte de la pollution et des impacts sur la santé humaine. Le comité, qui n'a pas révisé la partie du projet de loi portant sur la formule de financement des territoires, ni celle abordant la question des juges de cour fédérale transférés aux territoires, remettra ses recommandations au comité sénatorial permanent des finances nationales, qui, à son tour, d'ici le 31 mai, fera un rapport au Sénat sur l'ensemble du projet de loi. La représentativité du comité appelle le questionnement puisque M. Patterson, un ancien premier ministre des TNO, est le seul sénateur en poste au nord du 60e parallèle à en faire partie, les sièges des territoires du Nord-Ouest, donc du Yukon et du Nunavik, étant vacants. Une situation malheureuse, commente le sénateur Patterson. Il souhaite que les personnes qui seront choisies dans le futur se joignent ultérieurement au comité. J'ai hâte d'être rejoint par des collègues qui connaissent le Nord autant que moi, dit-il. Sa collègue, Rosa Galvez, abonde dans le même sens. J'ai hâte qu'il soit nommé. On aurait pu attendre, mais il y a une certaine urgence pour l'Arctique. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Aucune date d'entrée en fonction n'a été jusqu'à maintenant officialisée. Le comité sénatorial spécial sur l'Arctique est présenté comme un nouveau comité, mais il a en fait tenu sa première réunion le 13 décembre 2017 et il en est presque au mi-mandat puisque son terme s'achève en décembre prochain. Les premiers mois lui ont servi à acquérir des connaissances sur le Nord, notamment en rencontrant des intervenants comme les premiers ministres des TNO et du Nunavut, Bob McLeod et Paul Kwasa, des fonctionnaires fédéraux, des scientifiques et des autochtones. Les travaux du comité sont orientés vers les mêmes thèmes que le cadre stratégique pour l'Arctique 2030, les peuples et les communautés de l'Arctique, le développement économique, les infrastructures, la protection de l'environnement et la biodiversité, les sciences de l'Arctique et le savoir autochtone, ainsi que l'Arctique dans un contexte international. Le comité n'a jusqu'à présent pris aucune position, mais commentera l'ébauche du cadre stratégique pour l'Arctique 2030 du gouvernement fédéral qui, selon le sénateur Patterson, sera rendu public au milieu de l'été. Nous pourrons la voir et faire des recommandations, souligne-t-il, et le gouvernement sera tenu d'y répondre. Monsieur Patterson affirme que son comité a reçu un bon accueil de la part de la ministre des Relations couronne autochtone et des Affaires du Nord. Les gens du Nord ont besoin de voix supplémentaires pour les appuyer, affirme Rosa Galvez. Le sénateur Patterson ignore encore si son comité examinera ou commentera le projet d'un corridor de transport nordique mis de l'avant par le comité sénatorial permanent des banques et du commerce. Mais nous allons examiner les autres problématiques d'infrastructure dans le Nord, assure-t-il, l'énergie, la bande passante, les routes, les ports.
Dévalé dans les ravines, dans les prairies, j'étais sauvage. Ma vitesse, c'est l'infini. Ma colère, c'est la tornade.
Ça s'appelle Le Cheval de Feu et c'était chanté par Arthur Ashe et ça nous amène vers un autre cheval, un cheval qui s'appelle Shadow, un cheval qui recherche un enfant autiste éventuellement. C'est une jeune femme qui s'appelle Floriane Vermeer, elle est originaire de Belgique, elle est passionnée d'équitation et nous écrit Marie Bergvins dans laliberté.ca. Elle vient de recueillir un cheval maltraité, nous sommes en Saskatchewan. Son objectif, le donner ou le vendre à un enfant souffrant d'autisme ou de troubles de l'attention. C'est dans un ranch au sud de Winnipeg que Floriane Vermeer et Anthony Page nous attendent. Au milieu de cette ambiance bucolique, seuls les chevaux et les amis des chevaux ont droit de cité. Tôt dans sa vie, Floriane Vermeer, qui est maintenant âgée de 18 ans, est tombée en amour avec les chevaux. Sur le ton de la confidence, elle nous raconte... Cette famille. Toute petite, j'étais entourée par les chevaux. Mon frère en avait un, ma mère aussi. Dans pareil contexte, elle commence à pratiquer le dressage et le saut d'obstacles. Comme les autres cavaliers, elle utilise un mors, une selle, des rênes ou encore des étriers. Mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Je voulais une meilleure connexion avec le cheval. S'il y a un problème, souvent les cavaliers cherchent à s'imposer plus sur l'animal, alors qu'il suffit de l'écouter. C'est juste un autre langage, un langage qu'il faut travailler avec le corps. À 15 ans, avec l'appui de sa maman, l'adolescente prend des cours et se forme en éthologie équestre. Cette discipline s'intéresse particulièrement à la relation entre le cheval et l'humain. Arrivée au Manitoba en septembre dernier, je vous ai dit en Saskatchewan, c'est une erreur, elle souhaite poursuivre dans cette voie. Et il y a quelques mois, une formidable chance se présente à elle. Elle apprend qu'une quarantaine de chevaux sont mis en adoption. Ils viennent d'être soustraits à leur propriétaire par un inspecteur du gouvernement. Le propriétaire n'avait pas soigné ces animaux. Il y en avait certains qui n'avaient qu'un œil. Certains ne savaient même pas marcher, d'autres étaient sous-alimentés. Devant toute cette misère animale, un coup de foudre. Elle souhaite emmener avec elle Shadow, une jeune jument dont elle apprendra plus tard qu'elle est âgée de 4 ans. Cependant, il lui reste à trouver un endroit où l'accueillir. On a envoyé des lettres un peu partout, dans le sud de Winnipeg, comme il y a beaucoup de chevaux dans le coin. On avait glissé une lettre dans la boîte aux lettres de la voisine d'Anthony Page, et c'est elle qui nous a dit que ce serait peut-être possible chez lui. Anthony, âgé de 27 ans, est un ancien entraîneur équestre. Un baroudeur, comme on dit, aux allures de cow-boy, qui est surtout un propriétaire de 4 chevaux. Sans l'ombre d'une hésitation, il acquiesce à la demande de Floriane Vermeer et de son Shadow. La façon dont Floriane poursuit ses rêves, la façon dont elle veut aider les animaux, c'est une histoire similaire à la mienne. J'ai aussi grandi avec les chevaux. Il y a beaucoup d'animaux maltraités dans le monde. Chaque animal, chaque personne qu'on peut aider, cela fait une différence. Shadow, s'il n'avait pas une chance d'entraînement assez tôt dans sa vie, il aurait été amené assez vite à l'abattoir. Floriane Vermeer se souvient des débuts difficiles dans le ranch. Shadow n'avait rien vu encore, ni humain, ni voiture. Ça nous a pris 2 heures pour la rentrer dans le box. Elle vient d'un monde de chevaux, elle doit entrer dans le monde des humains. Ce n'est pas facile pour elle, car elle a peur de tout. Si le cheval a peur de quelque chose dans le troupeau, il s'enfuit et court. Si Shadow est avec moi, elle doit essayer d'avoir confiance en moi et d'être près de moi. Aujourd'hui, les efforts de la jeune femme sont récompensés. L'éducation de Shadow avance, au galop. La jument en voie de guérison se laisse approcher et les moments de complicité avec Floriane sont quotidiens. Dynamique et généreuse, elle poursuit un autre objectif, celui de pouvoir aider un enfant en difficulté atteint d'autisme ou de troubles de l'attention. Vu qu'elle est assez petite, je pourrais la donner à un enfant autiste pour l'aider à son tour à réaliser son rêve. Le cheval peut beaucoup lui apporter. Les enfants autistes ont des difficultés à parler à des gens. Et quand ils parlent à des gens, ils reçoivent des commentaires. S'ils parlent au cheval, ils ne vont jamais recevoir une réflexion négative. Ils vont toujours recevoir une réponse par le corps. Ils vont juste devoir apprendre à la gérer. En Belgique, l'étudiante donnait déjà des cours particuliers à des enfants qui devaient vivre avec ce handicap. J'ai vu de grands progrès. Les chevaux les calment. En attendant de pouvoir transformer sa générosité en métier, Floriane Vermeer poursuit sa scolarité au centre scolaire Léo Rémillard. Après les cours, elle fonce presque chaque jour jusqu'au ranch d'Anthony Page pour poursuivre l'entraînement de Shadow. La prochaine étape sera de pouvoir la monter sans selle. Bientôt, j'aimerais la monter à cru. Pour elle, plus il y a de liberté, mieux c'est. De son côté, Anthony Page poursuit sa passion à côté de son travail d'entrepreneur en construction. C'est vraiment grâce au caractère de Florian que tout cela a évolué. Elle est la personne idéale pour réussir un projet pareil. Comme chaque fin de semaine, Anthony Page et Florian Vermeer partent à deux pour une petite balade, à cheval, évidemment. Alors, pour plus d'informations, Florian Vermeer a créé une page Facebook qui s'appelle Natural, comme naturel en anglais, Horsemanship, alors H-O-R-S-E-M-A-N-S-H-I-P, by, B-Y-F-V, qui sont les initiales de Florian Vermeer. Voilà, c'était Clotilde Sey qui vous présentait le National sur les ondes de Canal M. Je voudrais remercier Maurice Bolduc qui m'a appuyé à la technique aujourd'hui. Je voudrais vous remercier, vous, d'avoir été présent de l'autre côté des ondes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.